Radio Scénique, Éric Dotter, bonjour. Avec 1666 spectacles programmés au Festival OFF d'Avignon en 2024, on pensait le record battu, mais il n'en est rien. Le festival, dont la 59e édition en version OFF se tiendra à Avignon du 5 au 26 juillet, affiche cette année 1724 spectacles donnés dans 139 lieux. Au total, sur toute la durée du festival, 2 600 000 billets seront mis en vente pour plus de 27 400 levées de rideau. Ça donne un peu le tournis. Alors, pourquoi se rendre encore dans ce qui est le plus grand festival du spectacle vivant en France? Dans quelles conditions et avec quels spectacles? Ce sont ces questions que nous poserons à nos invités eux. Nos invités eux, qui sont toutes deux primo-avignonnaises et participeront donc pour la première fois au Festival OFF. La première sera avec nous au téléphone, sa compagnie est marseillaise et son spectacle s'appelle L'air poids lourd. Carole Errante répondra à nos interrogations. Notre deuxième invitée, elle est à côté de moi, elle s'appelle Bertille Miralier et son spectacle s'intitule La Métamorphose. Rien à voir avec Kafka et nous verrons avec elle si ses motivations et ses conditions sont identiques à celle de sa consœur. Dans le cadre de notre partenariat avec les EAT, nous discuterons ensemble avec Pierre Berliou, il est l'auteur de Dark, un récit théâtral primé par les EAT cette année. Il sera avec nous au téléphone depuis Briançon. Pascal, Avignon, avant d'être une ville de théâtre, c'est un pont et l'ex-cité des papes. Je vous ai proposé de nous brosser un tableau architectural de ce même palais des papes.
Et c'est ce que je ferai dans ma chronique, Eric. Alors, pour réserver un peu de suspense, je me contenterai pour l'instant de vous donner deux chiffres, 1309 et 22. 1309, c'est la date d'arrivée du pape dans la cité du même nom, et 22, le nombre d'arches du pont d'Avignon, vous savez, celui sur lequel on danse.
La suite, ce sera lors de votre chronique, Pascal, et c'est en fin d'émission que nous vous retrouverons. Vous avez le programme, éteignez vos portables et allumez les cigales. Voici la 15e édition de Radio Scénique.
Radio Scénique par Éric Dotter, le théâtre sur Aligre FM.
Radio Scénique qui se consacre à la toute première fois au Avignon OFF. Carole Errante, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes comédienne, danseuse, metteuse en scène, formée à la danse classique à l'Opéra de Marseille. Vous avez été danseuse de revue, vous proposez un théâtre corporel et de texte. Et votre compagnie s'appelle La Criatura. Parlons d'abord de ce qui vous amène, le spectacle qui vous amène à Avignon. Il s'appelle L'air poids lourd. Qu'est-ce que c'est ?
L'air poids lourd, c'est une pièce qui a été écrite par un jeune auteur australien qui s'appelle Lachlan Philpott, à partir d'un fait divers où des jeunes gamines de 14 ans se sont prostituées sur l'aire d'autoroute, donc l'aire des chauffeurs poids lourds, d'où le titre de la pièce, qui jouxte le collège.
Alors, voilà. C'est inspiré d'un fait divers.
Oui.
Et donc, il y a trois jeunes filles, et parmi ces jeunes filles, il y a une petite nouvelle, c'est ça ? Elle vient d'arriver à l'école.
Oui, c'est ça. En fait, à partir de ce fait divers-là, donc c'est des gamines qui se sont prostituées réellement donc sur l'aire d'autoroute en séchant les cours d'algèbre, un peu comme un pari un peu fou qu'elles se seraient lancées à elles-mêmes, un peu de façon inconséquente, sans en mesurer vraiment la portée. À partir donc de ce fait divers-là, Lachlan Philpott a écrit une fiction donc qui s'appelle L'air poids lourd et qui met en scène quatre personnages, donc trois adolescentes et un personnage qui va incarner toutes les figures adultes de la pièce.
Elle incarne en donc, fait une espèce de caricature d'adulte qui transcende.
Oui, c'est ça, c'est une sorte d'archétype. Elle va jouer 14 personnages. Donc voilà, c'est vraiment une façon pour l'auteur, c'était vraiment une volonté de vouloir appuyer sur le fait que les adultes dans cette pièce sont tous interchangeables, leur parole n'a pas de crédit, les gamines ne font que leur mentir, elles ne croient pas en la parole des adultes, et il y a vraiment une friction entre le monde des adultes et des grands, c'est-à-dire qui représentent l'autorité aussi bien à l'école que les parents, les psychologues, etc., les professeurs, et ces gamines.
Je vous propose une chose, Carole Errante, c'est d'écouter un extrait de L'air poids lourd, le spectacle donc que vous présenterez à Avignon.
Je me penche en arrière, la caméra sur moi. Me lève, joue avec mes cheveux, la caméra sur moi. Puis il se retourne, la caméra sur nous, il nous voit.
dans chaque histoire, il y a deux versions. Ça, tout le monde le dit.
Si tu ne sais pas faire la différence entre ce qui se passe là, dans ta tête, et ce qui arrive autour de toi, mais qu'est-ce que tu vas devenir ?
Vérité !
Je veux pas devoir passer ma vie à mentir.
Action !
Mentir sur l'endroit où je vais. Mentir sur l'endroit où je suis. Aller mentir sur les gens avec qui je suis.
Vérité !
Je sais ce qui t'est arrivé, mais c'est bon là. Passe à autre chose. C'était il y a des années.
Passe à autre chose.
Oui.
Comment tu peux me dire ça ?
Love Song Dedications. Vous êtes avec Richard Mercer. J'ai Ellie au bout du fil. Vous pensez à quelqu'un en particulier, Ellie, en cette nuit frisquette ?
Oui.
Comment s'appelle-t-il ?
Papa.
Carole Errant, on peut situer cet extrait ?
C'est pas un extrait. En fait, c'est
une bande annonce. Oui.
C'est la bande, on va dire, la bande son du teaser de la pièce. Donc en fait, c'est un mix entre plusieurs scènes. Il y a des répliques qui sont tirées de la pièce, mais c'est pas un extrait. Voilà, c'est plusieurs extraits, un montage, on va dire, un montage d'extraits de la pièce avec même des ajouts musicaux qui sont pas là, à ce moment-là, dans la pièce.
Alors, on les entend, elles se mettent en scène et elles sont tout sauf des victimes, hein, je le dis avec beaucoup de précaution. Elles agissent et ce n'est pas le point de vue de victime que vous. Ce n'est pas le point de vue des prédateurs, du prédateur que vous choisissez d'adopter. Vous êtes du côté des jeunes filles.
Exact. C'est vraiment le point de vue des jeunes filles. D'ailleurs, je suis vraiment sur une distribution entièrement féministe, aussi bien à la technique que sur le plateau. Je travaille vraiment sur ces questions d'égalité femmes-hommes depuis 10 ans avec la compagnie La Criatura. Donc je me place vraiment à cet endroit de visibiliser un maximum la parole des femmes, le travail des femmes. Et du coup, dans cette pièce, ce qui est intéressant, même si c'est un homme qui a écrit la pièce, c'est qu'effectivement, il se situe au niveau du regard des filles et de pourquoi elles ont agi de cette façon, quels ont été les ressorts qui les ont conduits à faire ce qu'elles ont fait. Et donc, alors, effectivement, moi, ce que j'aime dans mes pièces, c'est que c'est, enfin, dans les pièces que j'aime monter, c'est la notion de trouble qui, je trouve, est agissante pour nous, les spectatrices et spectateurs. C'est vraiment ne pas avoir un point de vue moralisateur. J'aime pas qu'on me dise ça c'est bien, ça c'est mal, mais qu'on me laisse moi-même faire mon chemin. Et cette pièce participe à ça, c'est-à-dire que les gamines dans la pièce disent effectivement qu'elles vont se prostituer de leur plein choix, qu'elles le décident, qu'on ne les a pas obligées, qu'on ne les a pas droguées, que simplement, et ça c'est important, elles les laissent faire, elles laissent les chauffeurs poids lourds faire. Voilà. Et à partir de là, on se dit qu'effectivement, elles sont embarquées dans une volonté qui leur est propre.
Oui, alors,
mais on oublie quand même qu'elles ont 14 ans.
Exactement.
Et que les chauffeurs poids lourds en question, ce sont des hommes, ce sont des adultes, et que clairement, ce sont des viols, et que ce sont des pédophiles.
Et que ce sont des prédateurs de fait, oui, des pédocriminels.
Exact. Exactement.
Alors revenons sur le pourquoi et pourquoi cette pièce. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé dans la volonté de partir dans cette aventure avignonnaise ? Vous n'êtes pas très loin, votre compagnie est située à Marseille.
Oui. On est basé à Marseille et si on fait Avignon cette année, donc ça va être la première fois pour la Criatura, ça va être son premier Avignon. Pourquoi ? Ben parce que je pense qu'on est arrivé à un stade de développement de la compagnie où on est obligé, on va dire, de faire partie de ce qu'est-ce que je pourrais dire pour qualifier Avignon ? Ce grand cirque, on va dire, ou ce grand supermarché des spectacles. Auquel en fait tous les professionnels, directeurs, directrices de théâtre sont conviés et viennent participer. Et pour nous, la Criatura, on a tellement de mal à sortir de la région PACA, à engager des discussions avec des directeurs de salles hors région, que on nous a conseillé, nos coproducteurs, nos coproductrices, mais aussi les financeurs, financeuses, nous ont dit là, maintenant, il faut tenter Avignon. Parce qu'hélas, je dis hélas, parce que c'est tellement difficile, et à tout point de vue, que ce soit financier, humain, à tous les points de vue, c'est très difficile. Mais à un moment donné, on est obligé de le faire, en espérant que ça va pouvoir ouvrir des portes sur une curiosité et une rencontre avec des professionnels hors région.
Quand vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé cet entretien à téléphone, vous m'avez donné un détail du budget, c'est pas indolore pour votre compagnie.
Non, clairement. Et le budget, en plus, on vient encore de l'affiner ce matin. Donc, je peux vous dire que clairement, on va finir Avignon toute nue, toute crue. Voilà, on n'aura plus aucune trésorerie.
Alors, il y a Bertie Miralier, voilà, notre autre invité, qui nous parlera aussi de sa première participation à Avignon, qui sourit en entendant vos propos.
Ah oui, c'est pas réel, clairement, là, c'est un pari, quoi.
Mais vous m'avez dit que vous le faisiez avec joie.
Ah mais complètement, parce que sinon, ça sert à quoi ? Moi, je suis d'abord joyeuse avec ce projet, parce que l'équipe est absolument fantastique. Ces jeunes comédiennes me donnent une énergie folle et une joie incroyable. Et je pense que je suis... aller à Avignon avec ce projet, c'est le bon projet. Parce que je sens qu'on va bien s'entendre, que ça va bien se passer, je croise les doigts. Et que, de toute façon, comme je dis aussi, admettons que notre risque déceptif soit plus. C'est-à-dire qu'on arrive à toucher personne. Eh ben, on pourra dire qu'on a joué pendant un mois. On s'est offert le luxe, parce qu'on s'offre le luxe en payant pour jouer. Hein. On s'est offert le luxe de pouvoir jouer pendant un mois au Festival d'Avignon. Et pas jouer comme on fait d'habitude, 15 dates, et puis terminer, on passe au prochain projet. Donc voilà, déjà, ça en soi, je dis, il faut prendre ça. On a la trésorerie, on n'en aura plus derrière, c'est pas grave. On trouvera d'autres ressorts pour continuer le chemin. Mais là, je pense que c'est une nécessité et même une envie. Donc oui, avec joie. De toute façon, à partir du moment où on fait les choses, si on ne les fait pas avec joie, ça ne sert à rien.
Carole Errante, on se retrouve tout de suite.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Et Radio Scénique qui décide de s'intéresser à la toute première fois au Festival OFF d'Avignon. Et Carole Errante, vous êtes toujours avec nous.
Oui, avec
votre spectacle L'air poids lourd, vous avez décidé de tenter l'aventure avignonnaise. Vous m'avez dit hors antenne, quand on a préparé cette émission, ça y est, c'est la bonne équipe. pour y aller.
C'est le bon projet aussi, parce que je pense qu'à Avignon, il faut aussi pas être à côté de ses, artistiquement, il faut être à son endroit. Et je pense aussi qu'avec cette pièce, c'est assez représentatif du travail de la compagnie. Donc au-delà de l'équipe, même le projet en soi, je pense que c'est le bon.
Alors, le projet, vous avez parlé de la production, c'est un budget un peu conséquent qui vous met toute nue, disiez-vous. Hein.
Oui.
Mais vous y allez aussi en faisant de la promotion. À Avignon, c'est aussi tracter tous les matins et aller chercher les spectateurs et les spectatrices l'un après l'autre.
Oui. Paraît-il, c'est ce qu'on va faire, en effet.
Vous êtes déjà allée en spectatrice?
Ah oui, tout le temps je vais en spectatrice depuis que je suis enfant à Avignon.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à choisir un spectacle parmi 1700 spectacles quand on est spectateur? Comment ça se passe?
C'est compliqué. Moi, j'avoue que je vais voir des je dirais beaucoup, c'est les metteurs en scène ou metteuses en scène qui déterminent aussi mes choix. J'ai envie d'aller voir ce travail-là ou cet auteur ou cette autrice-là. C'est souvent des choses dont j'ai entendu parler. C'est rare que j'y aille vraiment totalement à l'aveugle. Ça m'est arrivé, j'ai eu des super belles surprises aussi, hein. Mais souvent, j'y vais poussée par l'envie de découvrir le travail de quelqu'un ou de quelqu'une.
Et donc, pendant...
Que je connais, enfin, dont on m'a parlé, en tout cas.
Et donc, pendant un mois, vous allez donner la possibilité dans ce théâtre, je crois que vous êtes au Théâtre des Carmes, c'est ça?
Théâtre des Carmes.
Dans le œuf d'Avignon du 5 au 26 juillet. On donnera toutes les précisions sur notre site pour les spectateurs qui voudraient tenter l'aventure. Il faut être honnête, hein, ici à Radio Scénic, on n'a vu aucun des spectacles dont on parle. Simplement, on a eu envie de mettre en avant des projets par leur originalité. Et peut-être aussi parce qu'il s'agissait essentiellement de projets féminins. Carole Errant, merci encore. Rappelons que vous êtes la metteuse en scène de L'air pour poids lourd qui sera joué à Avignon. Merci encore.
L'air poids lourd, 15h25, à Descarmes tous les jours.
Et alors, on va retrouver notre chroniqueuse Louise Galland. Louise Galland qui a décidé de s'intéresser à la création du Festival d'Avignon.
En ce moment, sur Aligre, on me demande souvent de parler théâtre. Et franchement, je trouve ça top parce que ça m'en fait complètement ma culture qui était de base pas très fournie à ce niveau, faut bien l'avouer. Et du coup, j'ai aussi un peu l'impression de découvrir tout ça en même temps que vous. Vous qui m'écoutez. Non, vraiment, c'est génial. Alors aujourd'hui, moi je vous propose qu'on fasse un petit tour au rassemblement le plus connu du monde du théâtre. Et oui, rien que ça. Puis le Festival d'Avignon, c'est quand même une grosse histoire. Hein. Je vous raconte. Derrière le Festival d'Avignon, il y a Jean Villard. Jean Villard, figure emblématique du théâtre français, qu'on cite encore même des années après sa mort. Mais si on revient 40 ans en arrière, on parle d'un jeune comédien qui vient de quitter sa toute première troupe de théâtre, La Roulotte. À ce moment-là, il vagabonde un peu de son côté et il va faire une rencontre déterminante. Celle de Christian Zervos, un critique d'art, et de René Char, un poète. Les deux gèrent une expo d'art contemporaine au Palais des Papes et ils vont souffler à Jean Villard une idée qui va tout changer. Ils lui parlent d'une semaine de l'art dramatique, un concept qu'ils pourraient, selon eux, présenter directement au maire de la ville. Alors Jean Villard tente sa chance, il parle du projet au maire d'Avignon, qui refuse. Heureusement, René Char, l'ami poète de Jean Villard, va plaider pour sa cause et quelques semaines plus tard, le maire finit par accepter. La suite, vous la connaissez. Ce qui devait de base être une simple semaine d'art dramatique prend une ampleur inédite. Les spectateurs se pressent et ils sont un peu plus de 5000 assistés à la première édition. Évidemment, avec un succès pareil, la semaine d'art dramatique revient l'année suivante. Et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui, et depuis 1947. Bon, depuis le temps, vous vous en doutez, beaucoup de choses ont changé. Ce qu'on appelle maintenant le Festival d'Avignon dure de 3 à 4 semaines tous les ans, et c'est devenu LE rendez-vous immanquable pour les fans de théâtre. En parallèle, on a le Festival d'Avignon Off, qui s'est créé un peu comme un lieu de rencontre alternatif pour ceux qui chercheraient un théâtre plus libre, plus indépendant aussi. En tout cas, un peu différent. Vous allez vous en rendre compte, et je laisse maintenant Eric prendre le relais pour nous en dire un peu plus sur ce mystérieux Festival du Off.
Läuten Hochzeitsglocken in Avignon, dann ist wieder Hochzeit in Avignon.
Dans le sud en juillet, ça se passe à Avignon. Et si tu veux y aller, gare-toi à Tarascon. Si tu vas au palace, y'a plein de comédiens.
Une partout sur la place.
C'est un spectacle contemporain. Y'a des théâtres partout, de la cave au garage. Et votre spectacle à vous?
Ah non, moi je fais du fromage.
Y'a des spectacles pourris et y'a des petits miracles. Bon, vous c'est une boucherie?
Non, moi c'est mon spectacle.
Ah, tu croises des people qui sont un peu torchés. Oh, les village people!
Non, papier s'il vous plaît.
On va faire l'apéro à la place des corsins. Mais juste un pack à l'eau, nous avons des corsins.
Je vais me...
discuter. Alors, comment vas-tu? Eh ben écoute...
Venez voir l'élève du COBU.
Y'a des spectacles de rue, en live et sans coulisses.
Alors ça vous a plu?
Oui, mais ça sent la pisse. Y'a 1800 spectacles, un télo ou espiègle.
J'hésitais entre la rave
et ma sœur a ses règles. Le César de Ligline, c'est un spectacle in. Les poils de Topalov, c'est un spectacle off.
On va faire l'apéro à la place des corsins, mais juste un pack à l'eau, nous avons des corsins.
Je vais me...
La rue c'est la cohue, la place c'est la fournaise.
Tiens, lui fait la statue.
Non, il fait juste un malaise. Y'en a qui louent la salle, le créneau 10 000 balles.
Mais d'un côté regarde, lui, il joue pour que dalle.
Venez voir messieurs dames,
je n'en ai pas envie.
Y'a la clim dans ma salle,
allez-y je vous suis.
Ça tracte comme des chiens, les fly finissent par terre. Les arbres sont morts pour rien, c'est une forêt entière.
On va faire l'apéro à la place des corsins. Mais juste un pack à l'eau, nous avons des corsins.
Je vais me...
ma salle, sinon je reste sur Avignon. J'ai vendu ma voiture pour payer ma location. Faut que je paye le régisseur, mais aussi mes tracteurs.
Je crois que tu m'oublies.
Mon afficheur aussi. L'imprimeur est plus cher, le logement a augmenté. La SACEM a payé,
qui ne reversera jamais.
Lève la transpiration,
maquille-toi pour être beau.
Après tu vas tracter,
et puis un pack à l'eau. On va faire l'apéro à la place des corsins, mais juste un pack à l'eau, nous avons des corsins.
Je démarre.
Les artistes sont là, le public est à fond. Pour vous, nous faisons ça. Bon festival d'Avignon.
La 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 la.
Radio Scénique par Éric Dotter, le théâtre sur Aligre FM.
Et oui, vous le comprenez, grâce à notre programmation musicale, c'est d'Avignon dont on parle et des toutes premières fois, au Festival du Hof-Bertil Miralier. Bonjour.
Bonjour.
Vous aussi, vous allez être une petite nouvelle au Hof d'Avignon pour la première fois avec un spectacle qui s'appelle La Métamorphose et ça n'est pas du Kafka, ce Métamorphose-là. De quoi s'agit-il?
Ça n'est surtout pas du Kafka, donc j'admire l'artiste, mais nous c'est très joyeux, ça parle de grandir, vieillir. Et c'est une pièce de théâtre verbatim, la première en France.
Alors, qu'est-ce que c'est que le verbatim, en fait?
Alors, le théâtre verbatim, c'est un sous-genre, une sous-catégorie du théâtre documentaire. Et en fait, toute la pièce a été créée à partir d'interviews collectées auprès de personnes de tous âges sur les thèmes de grandir, vieillir. Et ensuite, une fois sur scène, les acteurs portent des écouteurs et ils entendent les extraits audio. Et en fait, ils les répètent en même temps qu'ils les entendent dans leurs oreillettes. Et l'acteur se métamorphose, vraiment sa voix et aussi au niveau du corps, pour vraiment devenir ces voix qu'il le traverse, qu'il le ou la traverse. Voilà.
Ça vous dit qu'on en écoute un petit extrait pour que nos auditeurs entendent bien? Alors, dans l'extrait qu'on va entendre, on entend la version enregistrée. mais que le spectateur n'entend pas. Hein.
Exactement, le spectateur n'entend jamais les voix originales, seulement les voix des comédiens et des comédiennes transformées, métamorphosées par ces voix.
Alors, le Kafka de Bertil Mirallier, extrait.
Je suis enregistrée à l'état civil sous le nom de Josiane et à l'église sous le nom de Joséphine. J'ai 94 ans.
Grandir signifie pour moi...
Pas facile comme question.
Grandir, c'est prendre en maturité.
Faire l'amour. C'est potentiellement prendre son autonomie.
En fait, j'ai cessé d'être un enfant quand les autres ont commencé à me faire du mal. Et c'était très tôt.
Est-ce que t'as envie d'être adulte, toi, plus tard ?
Pas trop.
Pourquoi ?
Parce que sinon, on doit s'occuper des gens et après, on peut jamais être tranquille. On doit lever nos enfants à la bonne heure et on est fatigué. Voilà. Et on doit conduire la voiture et moi, je veux dormir. Voilà. Quand on est petite, au moins, on est tranquille.
Mes parents m'ont déjà expliqué comment ça se passait. Genre, je disais, comment on fait les bébés ? Et genre, ma maman, elle me disait, eh ben, c'est le papa qui fait une caresse à la maman. Du coup, je comprenais toujours rien, mais c'est pas grave. C'est une belle explication.
Bertil Mirallier, c'est comme dans toutes les bandes annonces, on réinterprète le spectacle, on entend des extraits. Alors, on entend bien la voix des interviewés.
Là c'est exceptionnel parce qu'on entend les voix originales. À deux moments on entend le comédien et la comédienne qui reprennent la voix, mais en effet dans la bande-annonce, pour que le concept soit vraiment clair, on y a mis les extraits audio originaux et voilà, mais dans le spectacle on ne les entend pas, seulement les comédiens et les comédiennes.
Alors vous en êtes la metteuse en scène et l'initiatrice. Quel est votre but ? Vous cherchez quoi avec ce système technique et dramaturgique, hein, finalement ?
Ça peut faire un peu peur, parce que c'est quand même pas mal de la technique. On se dit, oh là là, il y a des écouteurs, des trucs sur scène et tout. Alors, c'est une mise en scène extrêmement minimaliste. Et c'est le corps qui prime, et le corps et la voix de l'acteur, qui pour moi sont la base du théâtre. Et en fait, c'est grâce à la voix, c'est ça vraiment qui va donner le vrai. Et en fait, c'est ça ce qu'on recherche, c'est le théâtre du vrai. On est au plus proche de l'authenticité, quelque chose qui, moi, m'a manqué dans le théâtre en France. Il y a trop de textes, on est trop intellectuel, et le texte. Moi, j'aime voir un acteur qui est vraiment qui ouvre son cœur complètement. Et je trouve que c'est ça ce qu'on a avec le verbatim, que j'ai découvert d'abord en tant que spectatrice, et ça m'a bouleversée, parce que j'ai jamais eu une sensation, une telle puissance de présence de l'acteur et de l'actrice sur scène, parce que l'acteur et l'actrice est dans une écoute absolue, parce qu'il entend en live, en direct dans son oreillette, et doit immédiatement le retranscrire. Du coup, déjà, il y a une puissance là de cette écoute-là. Et quand on voit ça en tant que spectateur, c'est extraordinaire. Et ensuite, toute la transformation au niveau du corps et de la voix des acteurs qui, du coup, interprètent une petite fille de 8 ans, une vieille dame de 95 ans, qui a une voix, du coup, très différente, beaucoup plus sèche. Donc, il y a énormément de métamorphoses dans la voix et dans le corps.
Alors, ils ou elles sont... Parce que c'est une distribution mixte, ils sont 5 sur scène, pas de décor.
Pas de décor, on a 5 chaises. Donc ça, au moins, c'est pas compliqué pour le transport pour Avignon.
Alors, on en vient justement aux questions budgétaires. Vous avez entendu tout à l'heure Carole Errante, ça vous a fait sourire, parce que j'imagine que vous sentiez assez solidaire de son sort lorsqu'elle parlait de trous financiers. Oui. Avignon, dans le off, on n'y va pas pour faire des recettes.
Oui, j'y vais. J'étais dans une empathie totale de ma consoeur qui a l'air de porter un très beau projet. En effet, Avignon, c'est... on le sait tous depuis longtemps, c'est quand même un trou financier, ça fait peur. À chaque fois qu'on en parle à des interlocuteurs dans la culture, ils nous disent « Oh là là, vous êtes sûr ?» parce que c'est une réalité. Hein. Avignon, maintenant, on y va pour la gloire. Nous, on est une compagnie émergente et contrairement à...
Il n'y a pas de secret, vous me l'avez dit au téléphone, vous avez 27 ans, vous êtes jeune comédienne.
La compagnie a été créée en 2023, c'est notre premier spectacle, on part à Avignon direct avec, donc il y a eu un... Nous, contrairement à Carole, on n'a pas mis le calendrier, fait attention, on y allait un peu la tête la première, mais je pense que c'est ce qui nous va, ça représente l'esprit de la compagnie. On a la niaque, on a envie de montrer cette pièce qui pour l'instant a très bien marché. On a eu un mois de programmation à Paris et on a eu des retours merveilleux, on a eu de la presse, tout va bien, donc on continue dans cette lignée-là et voilà, on fonce la tête la première à Avignon.
Radio Scénique par Éric Dotaire, le théâtre sur Aligre FM.
Alors votre troupe à vous, c'est 5 personnes, vous aurez la chargée de diffusion, l'attachée de presse et la chargée de prod, tout ça, tout le monde dans votre caravane et hop.
Exactement, dans la petite roulotte avec nos 5 chaises. Mais on a quand même, on est bien armés, je dirais. On n'arrive pas à Avignon avec juste nous les comédiens. On a en effet une chargée de diff, une attachée de presse, et notre chargée de production aussi. Donc voilà, on n'arrive pas non plus complètement en haillons et... Et voilà,
Vous êtes déjà préparé à la bataille du remplissage des places, des salles, hein, tractage.
Tractage, voilà, on est déjà en période on fait des petites séances de pitch, de comment pitcher en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, si c'est des familles, si c'est un couple, quel âge à peu près, enfin on fait plein de petites, voilà, on travaille sur le persona, on a des stratégies de machin et tout, enfin on devient des vrais entrepreneurs d'Avignon parce que, en fait, maintenant, c'est la guerre là-bas, donc il faut sortir du lot. Vraiment.
Alors, c'est un petit peu différent de ce que vous m'aviez dit lorsqu'on a préparé cette émission. Vous m'aviez parlé de marathon et de fêtes infinies, mais avec, sur fond de guerre.
Moi, en tant que chef de projet, j'y vais comme à la guerre. Je pense que mes comédiens et mes comédiennes, ils sont quand même, il faut qu'ils s'amusent là-bas. Le but aussi, c'est surtout quand on le fait dans des conditions qui vont quand même être difficiles, il faut pouvoir... Carole parlait de travailler dans la joie et en effet c'est le plus important et comme Avignon on n'y va pas pour on y va vraiment parce qu'il faut quoi parce
vous m'avez dit c'est un truc de fame
oui je suis très dans le franglais lié à mes études et ma formation aux États-Unis mais en effet Avignon c'est un peu on a les paillettes dans les yeux, c'est un peu le Hollywood en France quoi. Quand on est comédien, comédienne, tout le monde dans mon équipe y est déjà allé énormément de fois en tant que spectateur. Et moi, j'y suis allée seulement 2 fois, mais tout le monde dans mon équipe y est allé beaucoup de fois. Ils ont travaillé là-bas, mais dans les coulisses. Ils travaillaient dans le in ou dans le off. Donc voilà, on n'y va pas en inconnu. On sait un peu les coulisses du festival.
Alors, on y va enthousiaste ou un peu la boule au ventre hein?
Moi, les deux, je ne vais pas vous cacher que c'est quand même un gros, gros investissement. Mais c'est quand même hyper, hyper, hyper réjouissant.
Vous êtes aidé, hein, vous avez une subvention, je crois, de la DRAC.
On a une subvention de la DRAC Grand Est.
La Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.
Ouais. Exactement.
Qui représente quel pourcentage de votre budget?
Ça représente... je fais du théâtre parce que je ne suis pas très matheuse, mais j'espère pas vous dire une grosse bêtise. Je crois que ça représente 20% de notre budget.
Ça veut dire que, comme Carole l'expliquait tout à l'heure, vos fonds propres vont être engagés.
Oui, Et c'est ça, c'est là où est la boule au ventre. C'est que ça fait quand même un petit peu peur d'avoir un tel investissement personnel là-dedans. Mais c'est aussi parce qu'on y croit et que c'est un trop beau projet et que mes comédiens travaillent comme des fous dessus depuis plusieurs années et qu'on le mérite. Donc voilà, c'est un cadeau aussi d'aller à Avignon, vraiment.
Alors, La Métamorphose, rappelons-le, c'est une série d'interviews qui ont été réalisées en amont, qui durent entre 45 minutes et 1h30, et qui rassemblent des témoignages sur le fait de grandir, vous n'appelez pas ça grandir, mais se métamorphoser, avec des témoins qui ont de 8 à 94 ans. Est-ce que, en amont, ça n'était pas aussi une aventure de rencontrer toutes ces personnes?
Ah ben si, complètement. En fait, c'est ça aussi la joie dans le théâtre verbatim, c'est que tout le processus créatif est tellement déjà enrichissant. C'est des rencontres humaines extrêmement fortes. On est passé par énormément de... Beaucoup de choses nous ont traversées. Et ensuite, déjà ces rencontres, et puis ensuite de réécouter ces voix, ensuite de choisir quels extraits audio. Enfin, c'est un processus extrêmement long, mais qui est génial, génial à faire. On n'arrive pas juste, on te donne un texte, tu vas jouer ce personnage, maintenant je vais aller chercher comment je vais m'habiller, je sais pas quoi. Là, c'est des vrais gens, on parle de vraies histoires, ensuite on porte ça. Donc c'est énorme, c'est des histoires qui sont énormes. Et pourtant, il peut y avoir des extraits qu'on a choisis qui sont hyper anecdotiques, mais ça reste tellement fort parce qu'ils ont été dits dans un contexte où la personne se dévoilait complètement et c'est tellement touchant. Et c'est plus, enfin, il n'y a pas plus vrai que ça, quoi.
Alors, si vous voulez suivre le projet de Bertine Miralier, le projet qu'elle défend avec tant d'enthousiasme et avec des étincelles dans les yeux. Hein.
J'espère, j'espère.
Ce sera à Avignon du 5 au 26 juillet à 11h20 à la Factory, salle Tomasi. Bertine Miralier, merci.
Merci à vous.
Radio Scénique par Éric Dauterre, le théâtre sur Aligre FM.
Pierre Berliou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne de Briançon. Pourquoi ? Parce que vous avez obtenu le prix, vous êtes lauréat du prix des EAT Jeunesse 2025, les EAT écrivains, écrivaines associés du théâtre avec lesquels nous avons un partenariat. Votre texte s'appelle Dark. De quoi s'agit-il ?
Ça raconte l'histoire de Jeanne. Qui a 16 ans, qui est lycéenne et qui, pendant la campagne des législatives de 2024, se découvre un destin, elle va sauver la France.
Rien de moins.
Rien de moins, c'est sûr.
Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse connaissance de Jeanne, et le moins qu'on puisse dire. Alors, précisons-le, ce qu'on va diffuser est extrait d'un podcast, parce que votre texte ne vient pas de nulle part, vous l'avez écrit, mais il a déjà une existence sous la forme de 10 épisodes de podcast, dont on va donner les références sur notre site. Et on a choisi le réveil de Jeanne, et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jeanne a le réveil un peu difficile.
Vas-y ta gueule, laisse-moi dormir. Je donne un grand coup de latte à mon réveil Hello Kitty. Hello Kitty, putain. Faudra que je le planque le jour où on sera deux dans mon lit. Deux dans mon lit. Ça m'excite. Je me touche. Je pense à Vanessa, ma meilleure pote. Je sais, c'est pas bien, mais j'y peux rien. C'est mon énorme crush depuis la primaire. Avant que je me rende compte qu'elle était 100% hétéro. C'est comme ça, faut que j'accepte. C'est mort, meuf. En rentrant au lycée, je me suis dit que j'allais pas rester sa mort meuf toute ma vie. Maintenant, c'est juste ma meilleure pote. Mais je pense encore à elle en me touchant. Pas sûr que ça m'aide à passer à autre chose. En même temps, est-ce que ça se peut vraiment d'être 100% hétéro ? Oh putain, je me concentre plus du tout sur ce que je fais là. Allez, ciao Vanessa, je te remplace par un Timothée Chalamet mélangé à mon cousin Hugo. C'est chelou comme mélange, mais ça fait le job. Ça y est, je sens que ça monte. Ça monte encore. Encore. Ça y est, ça... Putain, Kitty qui snooze à ce moment-là ! Matin de merde ! J'allume la lumière, mais il fait noir dans ma tête. La vie est badante aujourd'hui. Vivement demain. Je m'habille en piochant dans la pile de fringues au pied de mon lit. Y'a rien qui me va, y'a tout qui me gave. Je descends dans la cuisine. Ma mère est en mode café-clope sur le bord de la fenêtre. Sur sa gueule, il y a écrit « Me parle pas ». Sur la mienne, toi non plus. On se comprend. J'avale un bol de Chocapic. Des Chocapic, putain. Il serait temps de grandir. Je me déteste. Aujourd'hui, tout est nul.
Pierre Berliou, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette jeune, elle est plutôt remontée. Est-ce qu'elle illustre une génération ? Est-ce qu'elle illustre les ados d'aujourd'hui ? C'est ce que vous avez voulu montrer dans ce texte ?
Oui et non, parce que c'est un personnage qui est à la fois inspiré de moi, inspiré de la comédienne qui l'interprète dans la fiction sonore, mais on a donné une attention particulière, oui, à représenter la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a des jeunes, d'ailleurs, qui ont participé aux lectures de répétition avant la fiction sonore, voilà, pour donner leur avis. Donc oui, on a essayé d'être à la fois fidèles, mais pas asservis à cette jeunesse-là.
Alors, cette comédienne s'appelle Amandine Barbier, si je ne m'abuse, on la cite. Jeanne, à l'endroit où on la quitte, elle vient de se réveiller. Elle est d'une humeur de bulldog anémié. Elle ne parle pas à sa mère parce que ça ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donnez-nous un petit peu l'envie d'aller plus loin dans ce texte.
Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle va arriver au lycée. Donc, l'action se passe sur 10 jours. Donc, entre le 29 juin 2024 et le 7 juillet 2024, donc les 10 derniers jours de la campagne, qui ont été marqués par une mobilisation contre l'extrême droite. Et donc, elle va arriver au lycée. Et devant le lycée, il va y avoir des gens qui vont lui parler des manifestations qu'il y a en ce moment... contre le Rassemblement National, et sur 10 jours, petit à petit, elle va se politiser. Et ça va être un peu le moment des premières fois en manif, premier amour, première relation sexuelle, etc. Voilà. Donc c'est toute une sorte de découverte sur 10 jours pour Jeanne.
Elle se découvre également, elle se découvre et elle découvre la politique en même temps ?
Oui, c'est ça. C'est une sorte de moment un peu condensé de vie qui je pense... par exemple, moi, j'ai découvert la politique au lycée en allant pour la première fois à une manifestation. C'était complètement fascinant de voir tous ces gens-là. Et c'était des moments de vie très, très, très intenses où les rencontres étaient très intenses aussi. Et j'ai voulu un peu rendre justice à ce moment-là de vie condensée qu'est un mouvement politique.
Alors, parce que vous mettez en rapport l'âge et la politique, on va dire que vous êtes né en 90. Votre maturation à la politique, rappelez-moi, ça venait pendant quelle campagne
le premier, c'était le contrat de première embauche. Ah, donc oui. En 2005, pardon.
Donc effectivement, vous êtes vous-même mobilisé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un texte? Parce que vous avez commencé par le théâtre de rue, vous avez étudié l'art dramatique au Conservatoire d'Avignon. Tiens, vous avez un point commun avec nos deux invités, c'est Avignon, puisque aujourd'hui on parle des primo participantes à Avignon. Et vous avez aussi travaillé au théâtre des Célestins, à la ferme du Buisson. Vous avez travaillé en construction de décors, en scénographie. Vous avez fini par monter une troupe de théâtre, une compagnie de théâtre de très tôt. Et vous faites de la danse, vous avez séjourné au Québec. Et vous travaillez dans le théâtre, le cinéma, la fiction sonore, l'opéra, la comédie musicale. Et je suis sûr que j'oublie certaines de vos activités. Alors dans tout ça, l'écriture d'une pièce de théâtre, est-ce que ça vous paraissait évident?
Là-dessus, j'avais cette envie de parler de ce moment de politisation dans une manifestation que j'avais vécu. Et aussi, j'ai une amie à moi qui s'appelle Mathilde, qui est obsédée par les chevalières et qui elle-même se prend pour la réincarnation de Jeanne d'Arc. Et ça me faisait bien marrer. J'avais envie de travailler sur un personnage comme ça de Jeanne d'Arc contemporain que j'ai mélangé avec mon envie de parler de politisation au lycée, et j'ai mis le tout en fait dans le contexte des législatives. Et ce que j'ai fait, c'est que moi-même, j'ai écrit la pièce entre le 29 juin et le 7 juillet 2024. Donc chaque jour, le soir, en fait, j'écrivais ce qui se passait, un bout du monologue de mon personnage, ce qui se passait dans sa journée. Et ça a permis de donner une première version en 10 jours, que j'ai retravaillé ensuite à l'automne et qui est devenu le texte qui est édité chez l'Harmattan.
Alors le texte, si je ne m'abuse, c'est un monologue. Vous l'avez transformé en pièce à plusieurs personnages dans votre podcast?
Oui, c'est ça. Donc le texte de théâtre, c'est un monologue, mais qui peut se faire sous la forme de chœur aussi. C'est une pièce, je pense, qui peut se jouer facilement en fait, pour un chœur d'adolescent. Et la fiction sonore, on a décidé de séparer les rôles. Donc il y a Amandine Barbier, la comédienne principale, qui prend, on va dire, 80% du texte. Et tous les autres personnages sont interprétés par une bande de 7 ou 8 interprètes. Voilà. Le tout sur une création sonore de Victor Page, donc avec beaucoup d'ambiance, de musique, pour nous faire plonger dans la fiction. C'est un peu comme un film pour les oreilles, quoi.
Alors, là arrive le prix des EAT. Qu'est-ce que ça représente pour un auteur? Alors, vous aviez écrit d'autres textes ou c'est votre premier texte,
hein? Non, j'ai écrit pas mal de textes avant. En fait, je suis revenu en France il n'y a pas très longtemps. J'habitais au Québec pendant longtemps, où j'ai étudié à l'École nationale de théâtre du Canada dans le département d'écriture dramatique. Donc Dark, c'était un peu une surprise, ce prix-là des EAT Jeunesse. Et à la suite de ça, il a également été lauréat du concours Vivons les mots et lauréat de l'aide à la création d'Arsena. Donc ce texte se porte bien en ce moment.
Et ce texte a dû résonner dans les oreilles du jury parce qu'il est terriblement en prise avec la réalité. Alors on pourrait dire que c'est très réaliste que cette jeune fille, elle illustre les doutes, la fluidité sexuelle, le franc-parler, et également l'adolescence, hein, le rejet de sa mère, le rejet de la vie de manière générale. Elle a 16 ans.
Oui, tout à fait. Après, c'est réaliste, mais c'est toujours très... très condensé. Quand on fait une œuvre, on choisit ce qu'on veut montrer. Donc même au niveau du langage, c'est un personnage qui aime beaucoup donner des surnoms aux gens, qui aime beaucoup tordre la langue pour s'inventer son univers. Donc c'est à la fois réaliste et très choisi, très condensé, très punché. En fait, c'est une écriture qui est très punchée dans le sens où c'est drôle, c'est ludique, c'est pas un verbatim de la réalité.
Alors oui, c'est un autre travail que ceux qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec Bertie Mirallier qui justement travaille sur le verbatim. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qu'une fois qu'on a fait le podcast? Est-ce qu'on peut envisager une adaptation théâtrale de ce texte d'Arc?
Ben, tout à fait. J'y pense en plus que l'aide à la création d'Arsena vient avec une potentielle aide à la production. Donc, je vais voir si moi, j'ai l'envie de le monter. Donc là, on est un peu dans la tête dans le guidon, parce qu'on vient de sortir de la fiction sonore, donc j'ai pas d'envie de tout de suite de mise en scène. Mais peut-être à terme, ou trouver une compagnie qui serait intéressée pour le monter et donc de bénéficier de l'aide d'Arsena pour le faire. Bah écoutez, donc c'est à suivre. Ouais.
Écoutez Pierre Berliou, on lance aujourd'hui cet appel. Si une compagnie est intéressée par Dark, le podcast est disponible sur l'ensemble des plateformes. Pierre Berliou, il me reste à vous remercier. Rappelons que vous êtes lauréat du prix un des lauréats du prix jeunesse des EAT écrivain et écrivaine associée du théâtre. Merci à vous.
Merci.
Radio Scénique par Éric Dauterre. Le théâtre sur Aligre FM.
Comment ses cheveux étaient noués pendant la deuxième scène. En fait, j'imaginais ses vacances il y a 2 ans sur la plage de Bénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte. J'avais pas bien suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi. Elle a failli me dire un truc, et puis finalement pas. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin au dénouement shakespearien. Deuxième acte, toute la ronge et soupire. Le clan des veufs s'éclate. Parce que bon, c'est Shakespeare. Niveau intensité, quelque chose qui rappelle le programme de MT pour l'année de quatrième. Pourtant la mise en scène était pas mal trouvée. Pas de décor, pas de costume, c'était une putain d'idée. Aucune intonation et aucun déplacement. On s'est dit pourquoi pas, aucun public finalement. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin à l'épilogue shakespearien. Des demi-citrons et on se photographie. À la table d'à côté, ils ont vu un Beckett. Ils disent c'est pas mal joué, mais faut aimer Beckett. Dans les rues d'Avignon, y'a des projets balèzes. Demain à 23h, je vais voir une pièce polonaise. Dans les rues d'Avignon, y'a du Pepsi Cola. Et puis y'a une fille qui dit bah en fait, je viens de Levallois. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin au monologue shakespearien. Première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans 2 ans sur la plage de Bénodet.
Sur Aligre FM 93.1, c'est Radio Scénique. Radio Scénique qui parle aujourd'hui de la première fois au Avignon Off. On retrouve tout de suite Pascal. Pascal Duterte, vous êtes notre architecte maison Et vous avez décidé aujourd'hui, dans le cadre de notre émission qui parle du théâtre Avignon, on sait que la scène la plus prestigieuse du festival, c'est la cour d'honneur du fameux Palais des Papes. Et vous allez nous en dire plus sur cet édifice.
Oui, ce Palais des Papes, qu'est-ce donc ? Et que font donc ces papes en France plutôt qu'à Rome ? Une histoire bien compliquée, en tout cas. Elle commence au début du XIVe siècle et s'achève un siècle plus tard environ lorsque le Saint-Siège est à nouveau ancré dans la ville éternelle. Les raisons pour lesquelles le pape Clément V n'a pas voulu rejoindre Rome seraient dues aux querelles intestines entre les Guelfes et les Gibelins. Mais bon, après avoir bourlingué en France, il se fixe dans le comtat vénétien. D'abord à Carpentras, puis en 1309 à Avignon, qui présente l'avantage de se situer près d'un pont permettant de franchir le Rhône, ce pont Saint-Bénézé, construit à la fin du XIIe siècle, permettait grâce à ses 22 arches de relier le royaume de France et l'État pontifical. C'est sur son vestige que l'on y danse tout en rond, comme dit la chanson. Le pape suivant est Jean XXII, ancien évêque de ce diocèse. Il fit d'Avignon le siège de la capitale de la chrétienté et transforma l'évêché en premier palais des papes. C'est à la suite de la croisade des Albigeois et du traité de Meaux que le territoire du comtat vénétien avait été attribué à la papauté. Le choix de la ville d'Avignon s'expliquait aussi par sa position géographique sur la route entre la riche Champagne et l'Italie. Bon, j'essaie de simplifier, mais comme on peut s'en douter, l'histoire est plus complexe. Donc, Avignon devient le siège pontifical de la chrétienté d'Occident jusqu'en 1378, date à laquelle commence le grand schisme d'Occident, qui dure 40 années, pendant lesquelles il y aura deux voire trois papes, donc autant d'antipapes. En 1417, il n'y en a plus des papes à Avignon, et c'est seulement en 1791 que le territoire devient pleinement français. La ville a donc été le lieu de six conclaves et a hébergé dans ses palais six papes, dont le dernier non reconnu par Rome.
Bon Pascal, tout ça est fort intéressant, mais parlons un peu de ce palais.
Eh bien, le palais est en fait constitué de deux entités, le palais vieux et le palais neuf. L'ensemble est adossé à une petite colline où se trouve le jardin du Rocher des Dômes. Il longe une grande esplanade située au nord de la ville, à proximité du Rhône. C'est un édifice monumental de par ses dimensions et son aspect de forteresse médiévale. On dit que c'est la plus grande construction gothique du Moyen-Âge. Le palais des papes ressemble vraiment à un château fort et il se voit de loin, dominant la ville dont les immeubles ne sont pas très hauts. La partie la plus ancienne est au nord, c'est le palais vieux, construit à l'époque de Benoît XII sur le rocher des Dômes, qui le mettait à l'abri des inondations. Le pape suivant, Clément VI, trouvait ce palais trop modeste et il demanda à son maître d'œuvre, Jean de Louvre, de projeter une extension digne de sa grandeur. Les deux palais n'en font plus qu'un, avec des bâtiments de forme et hauteur variables organisés autour de deux grandes cours. Le palais neuf déploie sa façade principale le long de l'esplanade qui mène à l'ancien palais des archevêques, dit petit palais qui abrite maintenant un musée de peinture ancienne. À la fin du chantier du palais neuf en octobre 1351, la superficie totale du palais des papes était de 6 400 m². Il faut mentionner le programme de fresques mis en œuvre grâce à Matteo Giovannetti, un élève du fameux Simone Martini, le peintre siennois qui était intervenu dans le vieux palais.
Alors on n'a pas le temps de raconter le destin du palais après le départ des papes et vous allez nous mener à grande enjambée vers l'histoire récente.
Oui, nous nous contenterons de dire que l'édifice servit de caserne pour un régiment d'infanterie à la fin du 19e siècle, qu'il fit l'objet d'un projet de restauration par Viollet-le-Duc interrompu par la guerre de 1870. L'édifice avait été inscrit comme monument historique dès 1840 dans la liste initiale. Et après le départ des militaires, la ville d'Avignon récupère le palais et commence la restauration. En 1907, les portes s'ouvrent aux premiers visiteurs. D'autres campagnes de restauration ont lieu de 1960 à 1981. Enfin, le palais est inscrit à l'inventaire du patrimoine mondial de l'UNESCO. De nombreuses expositions y ont été organisées. et il abrite aussi les archives départementales du Vaucluse. Et puis, bien sûr, la cour d'honneur, située dans le Palais Neuf, accueille la scène la plus convoitée du fameux festival de théâtre dont nous venons de parler.
Fin de cette 15e édition de Radio Scénique, le magazine du théâtre sur Aligre FM 93.1. Il était aujourd'hui consacré à la toute première fois dans le Hof d'Avignon. Alors, avant qu'elle ne parte pour l'aventure de ce festival, on va remercier nos invités. Merci donc à Carole Errante qui, pour sa première participation au Hof d'Avignon, présentera avec sa troupe L'air poids lourd de Lackland Philpott. C'est du 5 au 26 juillet au Théâtre des Carmes. Et ça parle de jeunes filles qui font l'école buissonnière. Merci également à Bertil Mirallier qui, avec ses comédiens et comédiennes, présentera La Métamorphose. Ça n'est pas du Kafka, c'est la première pièce verbatim en France. C'est aussi dans le Avignon Off, c'est aussi du 5 au 26 juillet 2025. Et c'est à la Factory. Notre troisième invité, c'était Pierre Berliou, auteur de Dark, une pièce lauréate du prix Jeunesse des EAT, écrivain et écrivaine associée du théâtre avec qui nous sommes en partenariat. Merci donc à lui, précisons que son texte est disponible sous la forme d'un podcast à épisode. On vous mettra le lien sur la page de notre émission. D'ailleurs, cette émission que vous venez d'écouter, vous pourrez la réécouter à l'infini en vous rendant sur la page podcast de Radio Scénique, sur le site de notre radio aligrefm.org. La radio, c'est comme le théâtre, c'est une histoire d'équipe. Merci donc à Pascal Dutertre et Loïse Galland, mes deux chroniqueurs et chroniqueuses. Merci également à Pierre Demkoff, découvreur des sons et des illustrations musicales de cette émission. À la technique, il y avait aujourd'hui Enrico Mastrogiovanni. Merci infiniment à lui. On se retrouve le lundi 23 juin à 10h sur Aligre FM 93.1 et aligrefm.org. D'ici là, excellente semaine. À vous tous, allez au spectacle, c'est là que se trouve la vie. La vie, c'est aussi au cinéma. Il est 10h, il est presque 11h. Et vous retrouvez dans quelques minutes Vive le cinéma.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.